Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Canto Sperber. Morale et anthropologie, sommes-nous condamnés au relativisme ? Avec Samuel Lézé. L'anthropologie, discipline universitaire depuis plus d'un siècle, a ouvert considérablement la connaissance de l'humain. Elle a révélé la richesse, mais aussi la rigueur de raisonnement, de pratique, de culture, de nombreuses civilisations, milieux, sociétés restées jusque-là largement ignorées. Elle a aussi implicitement mis en cause les certitudes issues de la culture occidentale et longtemps tenues pour les seules véritables, par là considérées comme universelles. Parmi elles, les certitudes morales. Certes, mais de quelle façon ? Avec quelles conséquences ? Prendre au sérieux l'apport des études anthropologiques en morale condamne-t-il à être relativiste ? Merci Samuel Lézé d'avoir accepté cet entretien, mais vous êtes tout indiqué pour cette conversation puisque vous venez de publier avec Didier Fassin la question morale, une anthropologie critique aux presses universitaires de France, et où il apparaît, enfin, dès qu'on ouvre le livre, que d'une certaine façon la réflexion morale a commencé avec la codification, enfin en tout cas les premiers écrits techniques ou universitaires qui pouvaient être qualifiés comme contribution à l'étude de l'anthropologie.
Merci de votre invitation et de l'occasion que vous nous donnez avec Didier Fassin de présenter cet ouvrage et de revenir sur cette, à la fois l'histoire institutionnelle de l'anthropologie, mais aussi l'histoire des problèmes anthropologiques qui se sont cristallisés aussi en philosophie. Et donc, lorsqu'on met en perspective la question morale, on la met aussi en perspective dans plusieurs types de filiations. Et la première chose qui est frappante dans cette histoire, dans cette généalogie, c'est le fait que la diversité appelle d'emblée à constater une multiplicité de mœurs et de coutumes, et que de ce constat, on peut soit en faire une certitude, et se dire l'anthropologie est convoquée pour confirmer cette diversité, et donc ce serait une pure platitude, ou soit d'en faire un véritable problème, et l'institution d'anthropologie, en tant que discipline universitaire, en a fait un vrai problème. Il faut pouvoir l'expliquer, mais aussi, peut-être, trouver des outils pour comprendre l'unité qui se cache peut-être derrière cette apparente diversité.
Alors, bon, l'anthropologie, première tâche de l'anthropologie, c'est-à-dire, d'une certaine façon, constater ce qu'est une culture et la décrire. D'une certaine façon, d'autres qui n'étaient pas anthropologues, en tout cas qui s'ignoraient comme anthropologues, l'ont fait depuis longtemps. On a aussi d'Hérodote, on a même la guerre des Gaules de César, avec des descriptions très détaillées des mœurs et des pratiques des uns et des autres, qui souvent provoque le plus grand étonnement. Mais évidemment, ces témoignages, ces textes sont totalement distincts de ce qu'est le travail dans l'anthropologie, parce qu'il y a une volonté d'empathie, de compréhension, une hypothèse faite quant à la totalité de la culture, ou en tout cas sa véritable capacité à organiser un monde autour d'elle, qui n'existait évidemment pas chez les anciens chroniqueurs.
Tout à fait.
Alors quel rôle joue la question morale dans cela ?
Au problème de la diversité, les anthropologues, en fait, ils se sont mis en position d'immersion. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont les héritiers de ces problèmes philosophiques, mais ils se sont mis en position d'essayer de comprendre la spécificité ou la logique interne de ces sociétés en brandissant le fameux travail de terrain. C'est-à-dire qu'eux, ils y sont, et ils ont été voir comment ça fonctionnait, ils ont été interroger des gens, et ils ont été voir les populations elles-mêmes. Populations dont il faut bien avoir en tête, ont été en partie constituées par l'histoire coloniale, donc il ne faut pas effectivement tenir cette rhétorique de l'immersion spontanée dans une population pour quelque chose de naïf ou d'ingénu. On n'arrive pas dans une population par hasard et on n'étudie pas non plus la morale de cette population par hasard. Et donc, si on est intéressé par les coutumes étranges, c'est aussi parce qu'on est très intéressé de savoir si cette population va nous poser problème dans notre quête d'empire. Et donc,
ça, c'était le cas des premiers anthropologues. Oui. On ne peut pas dire que ceux qui font un terrain aujourd'hui, oui, ils sont animés par ce souci, quand même.
Alors,
ou autrement, en
tout
cas.
Ça s'est retourné, effectivement. Mais il faut bien avoir en tête que ces problèmes qui intéressent les anthropologues sont aussi issus de cette histoire. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'un anthropologue travaille sur la morale, il doit avoir ça aussi en tête, mais sous une forme inverse, mais symétrique.
Oui, parce que ce qui est très frappant, en tout cas, bon, il y a eu des publications même surprenantes, lorsque des journaux intimes d'un grand anthropologue, oui, ont été publiés, de voir que ce qui avait été décrit très minutieusement comme le système, disons, moral, entre guillemets, avec certaines pratiques qui peuvent nous paraître à nous complètement immorales et totalement répugnantes, et qui étaient consignées comme telles, eh bien, alors je vous laisse terminer.
Alors, si on prend le cas de, disons, du père de l'anthropologie moderne, Malinowski, dont le journal de terrain, donc le vrai journal de terrain, c'est-à-dire c'est l'anthropologue qui a mis en avant l'idée qu'il fallait tenir un journal de terrain pour étudier la logique interne d'une société. Et qu'est-ce qu'on découvre dans ce journal intime? Eh bien,
qu'il a publié après sa mort.
Publié après sa mort. Eh bien, un certain nombre de propos à la fois racistes, d'ennui du travail de terrain, c'est-à-dire qu'en gros, il consignait ses états d'âme, sa solitude, et ça a posé un vrai problème à l'anthropologie contemporaine, puisqu'on se trouve face à une contradiction majeure, à la fois la valorisation du travail de terrain, et puis un homme qui, effectivement, se trouve dans une situation où il est obligé, pour construire son travail de terrain, d'exprimer... Mais c'est pire préjugé.
En même temps, il a vraiment joué le jeu de l'anthropologie. Oui. C'est-à-dire qu'il a montré la cohérence de cette culture, il l'a restituée en toute intégrité, mais par ailleurs, en la désapprouvant totalement, en tout cas dans certains de ses... D'ailleurs, dans Triste Tropique, je m'étonne, j'ai été contente de voir une réflexion de ce type. Lorsqu'on lit Triste Tropique, on ne peut pas penser qu'il y a la moindre empathie à l'égard des populations qui se sont décrites, ni même, laissons de côté l'empathie, mais même pas le moindre respect, au sens qu'on donne à ce terme aujourd'hui.
Alors, l'un des paradoxes, si on reprend à la fois le cas de Triste Tropique, mais aussi de Malinowski, c'est qu'on pourrait très bien dire que, parce que Malinowski a fait justement ce journal de terrain, en explicitant l'ensemble de ses préjugés, mais qu'il n'a pas publié, ça a facilité, et même amélioré et rendu d'une très grande qualité, son travail anthropologique. C'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Et lorsqu'on fait notre travail de terrain, on ne suspend pas notre jugement. On est constamment en train de surveiller justement l'ensemble des préjugés, des émotions négatives ou même positives que l'on a à l'égard des populations que l'on étudie. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une façon de contrôler les biais personnels que nous avons. On pourrait très bien défendre même le texte de Malinowski, même dans toute sa crudité, en disant, ben voilà, il a fait exactement ce que nous faisons encore aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, il a exprimé, brut de décoffrage, l'ensemble des émotions qu'il avait sur le terrain, et puis, après tout, est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir de l'empathie pour les gens que l'on étudie?
Mais son travail n'emporte pas la marque.
Absolument
de ses
pas.
Opinions négatives, il est arrivé à réaliser cette sorte de dissociation scientifique, en fait, certainement, qui était tout l'idéal que poursuivent ceux qui s'intéressent à la chair même des affaires humaines. Alors, lorsqu'on revient à la thématisation précise de la question morale dans les travaux anthropologiques, on remarque, et vous le soulignez très, très vivement, l'espèce de décalage peu explicable entre l'omniprésence du thème moral et puis la très faible part de théorisation explicite qui existe dans le corpus.
Oui, il y a comme une sorte à la fois d'évidence, mais aussi de répugnance. C'est-à-dire que, pour les anthropologues, se contentant de la notion de culture, finalement, une culture c'est un système de valeurs, donc la morale fait partie de ce système de valeurs. Donc, évidence de la morale comme étant inclus dans la notion de culture. Mais aussi une forme de répugnance, c'est-à-dire que, en fait, on hésite à utiliser la notion de morale et on va souvent se dire que c'est très difficile à thématiser, très difficile à définir, et donc un certain nombre d'anthropologues vont se dire que, finalement, nous n'avons pas de bonne définition de la morale et que la morale, peut-être, n'a pas à être distinguée du reste de la société, de la culture. Et donc, des philosophes qui ont travaillé avec des anthropologues, notamment Abraham Heddel, fait le constat que les anthropologues sont un petit peu faibles au niveau théorique en matière de morale et qu'il faut pouvoir identifier qu'est-ce que c'est que la morale, lui donner, en fait, une sorte de force conceptuelle pour pouvoir ensuite l'observer sur le terrain. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est omniprésent, c'est le fait de constater constamment qu'on doit étudier la morale, mais on n'a pas les bons outils, on n'a pas la bonne définition, ou alors on essaye de s'en écarter en se disant « Mon Dieu, si je travaille sur la morale, je vais tomber dans les évaluations, je vais étudier l'évaluation des personnes que j'étudie, et donc on va s'engluer, en fait, dans des valeurs, des normes et des affects, et on ne sait pas très bien le faire. »
Mais alors ça rend le travail de l'anthropologue difficile, parce que arriver avec une conception morale bien articulée, ça suppose quand même un travail technique, parce que la morale, c'est aussi une discipline extrêmement... La réflexion morale, la philosophie morale, en métaéthique, discipline extrêmement technique, et forcément, les anthropologues ne sont pas formés à ça. Puis d'un autre côté, s'ils s'intéressent aux évaluations, ils courent tous les risques d'un point de vue normatif, qui avec des jugements de valeur et parfois même, malgré eux, des reprises des mêmes jugements qui inspiraient les conquérants coloniaux, enfin la colonisation, ce que les anthropologues aujourd'hui ne souhaitent pas du tout faire, j'imagine.
Alors c'est ce qui explique finalement le peu de travaux explicites sur les questions morales en anthropologie et à la fois l'appel de nombreux anthropologues à le faire. Et donc, l'une des particularités de cette anthologie, c'est finalement de rassembler le peu de textes que nous ayons sur les efforts que les anthropologues ont faits, souvent en lisant les philosophes, pour pouvoir délimiter un objet moral en anthropologie.
Alors, je vous cite, hein, dans l'introduction, enfin, l'introduction du livre, c'est tout à fait clair. On a remarqué le décalage entre la prolifération de questionnements et de jugements moraux dans la littérature anthropologique et la modestie de leur thématisation et de leur problématisation comme question morale. Alors, il est vrai que quand on ne connaît pas bien, on se dit, mais il s'agit de systèmes culturels, donc en fait, il n'y a pas d'autre morale que l'obéissance aux normes sociales. Et on a tendance à penser que, je pense que c'est une idée très, très générale, que la morale dans ces sociétés, elle n'est évidemment pas, le croit-on, fondée sur la libre évaluation, le libre arbitre, ou les intuitions morales centrées sur une conscience morale individualisée, mais au contraire sur une adhésion à un code défini socialement. Est-ce que cette image, qui me semble très largement partagée lorsqu'on parle de la morale des populations qu'étudient les anthropologues, correspond à une réalité, ou est-ce que c'est une image extrêmement tronquée de ce qu'est... au fond, un équivalent de liberté de jugement moral dans ces sociétés, comme chez nous?
Alors, les anthropologues ont à la fois contribué à ce stéréotype et tenté de l'effriter. C'est assez paradoxal. On va voir des anthropologues qui vont réaffirmer l'homogénéité et la force du système moral sur les individus et se disent qu'il suffit d'interroger n'importe quel individu de n'importe quelle société. C'est ça, ce qu'on appelle un informateur privilégié, et vous allez dérouler l'ensemble du système moral de cet informateur privilégié, sans se préoccuper du tout sur, un, des variations possibles, et deux, eh bien, des conceptions personnelles que cet informateur pourrait avoir. Et on voit d'autres anthropologues qui, eux, vont justement s'intéresser à la biographie de certains informateurs privilégiés. Dans l'anthologie, il y a très tôt des auteurs comme Paul Radin, par exemple, qui était peu connu en France, qui est quand même un auteur de référence aux États-Unis, qui va, lui, s'attacher effectivement à montrer la réflexivité morale des individus qui étaient, par ailleurs, écrasés sous le poids de leur culture. Et donc, on trouve des anthropologues qui vont mettre en place des méthodes biographiques pour pouvoir montrer que non seulement ces individus ont un système moral, puisque c'était aussi un enjeu des anthropologues de montrer que ce n'était pas simplement des sauvages, et donc qu'ils avaient un système moral. Mais que non seulement ils ont un système moral, mais que chacun de ces individus, en tant que tel, eh bien réfléchit et se trouve face à des questions morales, des dilemmes moraux, comme tout à chacun, et que c'est un des enjeux aussi de l'anthropologie de montrer que, eh bien, dans ces populations, il y a des individualités. Et ça, c'est très important aussi à noter, c'est des individualités morales.
Avec une marge d'appréciation, pour la compréhension, de savoir si, d'abord si c'est la situation à laquelle s'applique cette norme et comment interpréter la norme. Donc, bref, quelque chose, une sorte de conscience critique qui est très semblable à notre expérience occidentale, que nous pensons pourtant très, très différente de ce qui a pu constituer la cohésion de ces sociétés. Remarquez, ce n'est pas que dans les populations que les anthropologues étudient, parce que pour en venir, pour parler de, de l'Antiquité ou de la Grèce ancienne, certains pensent qu'il s'agit d'un système où chacun a sa place, une sorte de cosmos figé, où on n'a pas d'autre morale que la place qu'on occupe. Et des travaux récents ont montré l'importance des notions de délibération, de doute, de liberté de l'individu, de volonté libre, donc toute une thématique morale qui réapparaît au cœur d'un système dont on pensait qu'il laissait aucune place à ça. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement riche. Et pour revenir à la notion des conflits, j'ai été très intéressée par les textes qui précisément parlent de conflits, donc de sociétés qui sont peut-être plus totalement homogènes, mais qui ont déjà pris un premier choc d'acculturation et qui restent des sociétés à étudier par des anthropologues. Vous faites référence là aux contradictions qu'il y a entre le contact entre les valeurs traditionnelles et une façon d'être chrétien quand les sociétés ont été très tôt christianisées, ou même cette étude-là, qui, d'après ce qui en est cité, l'extrait qu'on a cité est passionnant. Je dis ça pour nos auditeurs, pour qu'ils soient, j'espère, curieux de lire cet ouvrage, sur ce terrain d'anciens croyants, cette communauté d'anciens croyants de l'Oural, où est en conflit à la fois un athéisme socialiste, bon, ça se passe au XXe siècle, donc on ne peut pas en être autrement, mais ascétisme orthodoxe et athéisme socialiste. On a une sorte de subsistance religieuse, de vieille orthodoxie, de vieux croyants qui heurtent de front un athéisme socialiste. Ça donne des choses étonnantes.
Alors, c'était un des enjeux de cette anthologie, de ne pas simplement se concentrer sur des morales locales, comme on imagine l'anthropologue plongé dans sa société et dégager une morale locale, mais aussi des situations dans lesquelles les sociétés sont prises avec des mutations de valeurs, de normes et aussi d'affects, de sentiments. Et un ensemble de textes montre ces processus-là. Et donc l'anthropologie, ça montre aussi des transformations morales, des transformations sociales. Souvent, on imagine l'anthropologue travaillant sur des sociétés figées. Et là, ces textes montrent que l'anthropologie travaille aussi sur des mutations morales importantes et montre aussi la créativité avec laquelle des individus plongés dans des univers très opposés articulent où trouve des solutions morales et éthiques, personnelles, dans ce type de situation politique. Donc l'un des enjeux aussi, c'était de montrer que ces sociétés ne sont pas des monades isolées, mais aussi des sociétés plongées dans des situations politiques particulières, et donc de réinscrire la morale aussi dans des contextes à la fois historiques et politiques plus larges, pour mieux en voir à la fois les tensions, les frontières et les transformations.
Et là, on trouve, d'une certaine manière, un travail de la morale, un travail concret de la morale pour l'individu, et d'une certaine manière, qui mobilise les mêmes ressources que dans le monde qui nous est le plus familier, c'est-à-dire une représentation de la norme, un jeu sur des dispositions abstraites, des pulsions, des stratégies d'inhibition, et tout un travail de la justification des actions, qui est extrêmement riche, et qui passe, en effet, par la définition de dilemme, dans lequel on reconnaît l'horrible complication de la vie morale, de la même façon qu'on en a l'expérience dans nos sociétés. Toutefois, me semble-t-il, un débat quand même très largement recouvert, qui était sans doute un débat occidentalisé, l'apport de l'anthropologie à la réflexion morale, c'est le débat sur les valeurs universelles. Peut-on, de ce constat de la diversité des cultures, qui est même le premier acquis du travail anthropologique, en conclure qu'il n'y a pas de valeur universelle, ou même en conclure que si la question se pose, c'est la réponse qu'elle doit recevoir.
Alors derrière cette question, il y a une autre question auquel généralement on répond, c'est du type de lien ou de définition, de relation qu'on imagine entre l'anthropologie et la philosophie. À une question philosophique, on va convoquer des données anthropologiques empiriques. Et généralement, on va dire, pour pouvoir fonder une thèse philosophique assez forte, celle du relativisme éthique, qu'il y aurait comme des preuves, comme des choses qui pourraient établir cette thèse forte. Et parmi les anthropologues qui avaient aussi une formation de philosophe, beaucoup ont été tentés de dégager de la littérature anthropologique eh bien, les données suffisantes pour dire, eh bien, il suffit d'observer, on en fait des listes. Généralement, c'est des encyclopédistes, hein, ils font des listes de coutumes, et de cette liste de coutumes et de variations, plus ou moins étranges, l'exotisme donne un petit goût comme ça, en plus à la morale, eh bien, on peut défendre l'idée qu'en fait, le relativisme existe et est une thèse viable et que les valeurs universelles n'existeraient pas du tout. Il est plus difficile pour un anthropologue de défendre l'inverse. Pourtant, on a vu un certain nombre d'anthropologues, même américains, c'est-à-dire culturalistes, qui se sont détachés progressivement de ces thèses en voyant l'absurdité. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à deux choses très différentes, à un constat de pluralisme des valeurs et puis à une thèse philosophique qui dit il n'y a pas de valeur universelle. Et le passage de l'un à l'autre eh bien, est très inconfortable parce que si tout se vaut, premièrement, c'est une thèse absurde puisque tout se vaut, c'est un énoncé universel. Donc l'énoncé même de tout se vaut est
la
absurde.
La troisième étape étant justement la hiérarchisation voilà. Entre cette absence de universalisme.
Et ensuite, on se dit, au nom de la tolérance que souvent les anthropologues ont mis en avant, eh bien, il faut tout tolérer. Donc, il suffit d'invoquer les exemples les plus délicats de notre histoire pour dire, eh bien, si on doit tout tolérer, on doit tolérer l'Allemagne nazie, on doit tolérer toutes les expressions humaines les plus immorales. Et donc, de ça, évidemment, l'anthropologue est mis en difficulté, mal à l'aise, et doit réfléchir à deux fois avant de pouvoir revenir sur l'idée de relativisme moral. Mais souvent, ce qui est confondu, c'est relativisme culturel et relativisme moral. Et souvent, le relativisme culturel, il est méthodologique. Il n'est pas théorique. Il a surtout une fonction de comparaison. Et puis, il a aussi une fonction parfois de satire. Mais la satire, elle est plutôt pour critiquer nos propres conceptions morales. Donc, en fait, de ce relativisme culturel, on retrouve une vieille rhétorique du XVIIIe siècle critiquant avec le bon sauvage notre propre culture, en fait. Et donc, finalement, ce que l'on trouve sous la plume des anthropologues, c'est des positions à la fois soit très mal à l'aise ou très assurées, mais pas très bien conceptualisées.
Dans cet glissement progressif que vous avez vraiment bien restitué, où on parle d'abord du pluralisme culturel, on observe la pluralité des cultures à une forme de relativisme moral, qui est une thèse philosophique, qui peut même être une thèse ontologique, donc une portée philosophique très forte, et puis ensuite, ou dans une autre direction, une hiérarchisation des cultures. Ce qui est très frappant, c'est que dans les livres les plus historiques, anthropologiques, qui ont été les plus marquants, qui ont décrit des sociétés où, semble-t-il, il n'y a pas de valeur morale comparable aux nôtres. Vous allez en citer quelques-uns, les travaux sur les X ou les travaux sur les peuples de la pauvreté, c'est-à-dire des conditions de vie telles que tout ce que nous considérons comme évidence morale unanimement partagée sont totalement pulvérisées. Et bien, lorsque des travaux de ce type ont été publiés, ils exprimaient rarement, ils montraient comment ça pouvait fonctionner une société humaine sans morale. Mais il n'allait pas du tout jusqu'à, me semble-t-il, donner à ça une quelconque exemplarité.
Alors, quand les anthropologues...
Mais ça a été un choc terrible pour le grand public, parce que ces travaux, en général, ont été très largement lus, bien au-delà du monde des anthropologues, précisément parce qu'ils montraient que, certains commentaires l'ont dit, chez les hommes, on se comporte aussi comme les bêtes.
Oui. Le texte de Colin Turnbull est exemplaire, puisqu'en plus, il est sur les hic, a eu vraiment une très grande diffusion et il a eu un grand succès.
Alors, de quoi s'agit-il? Parce que je ne sais pas si tous nos auditeurs savent de quoi il s'agit, d'un peuple.
Alors, d'un peuple en Afrique qui... le titre qu'on a choisi, c'est « Survivre par la cruauté ». C'est-à-dire que, c'est une société pour des raisons historiques, s'est trouvée dans une pénurie totale de subsistance et donc a été obligée de faire des tris et de laisser vivre et de laisser mourir sa propre population, et donc de faire des choix qui, de l'extérieur, étaient inhumains et donc d'une grande cruauté. Et l'un des apports de ce texte de Turnbull, c'est qui a fait scandale et qui a eu là encore un grand succès, qui a été publié en français dans cette belle collection Terre humaine, c'est de montrer à quel point on pouvait structurer une société sur finalement une valeur, la cruauté, qui pourrait paraître totalement inhumaine et impossible à, justement, on aurait pu imaginer que cette société soit tombée complètement dans l'anomie. Et en fait, avec cette cruauté, ce peuple survit. Et donc, c'est à la fois le paradoxe, la surprise et le scandale de ce travail anthropologique. C'est de voir à quel point ce qui peut paraître immoral a une forme, finalement, de moralité. Mais, effectivement, quand ce texte paraît, c'est pas pour en faire un étendard ou une défense et illustration.
Alors qu'en est-il maintenant des travaux anthropologiques qui s'immergent dans une culture, enfin prenons le cas d'une culture musulmane ou d'une culture africaine, où certaines limitations de liberté et certaines manières de traiter en particulier les femmes ou les enfants, ou certaines ce qu'on considère en Occident comme des atteintes corporelles, en particulier au corps des femmes, comme l'excision sont pratiquées, et qui peut être... et que nous désapprouvons, évidemment, tout à fait spontanément, en bureau de conscience, mais qui peuvent être dans certains travaux, et c'est ce qui est troublant pour des lecteurs formés comme nous le sommes, qui, dans certains travaux anthropologiques, apparaissent comme un élément clé de la cohérence d'un système qui, en tant que tel, a une valeur intrinsèque et pourrait éventuellement mériter d'être préservé. Là, c'est une interpellation même difficile. Il est difficile de certains le considèrent en tout cas, d'argumenter ou de justifier une position critique à l'égard de cela.
Une des difficultés dans lesquelles souvent se trouvent les anthropologues, c'est de travailler sur des énigmes contextuelles ou sur des aberrations ou des irrationalités ou des éléments de diversité qui posent problème. Alors, d'emblée, ils se mettent à travailler... à décrire, souvent précisément, sur des choses qui, d'emblée, risquent de choquer. Et donc, on va tout de suite les suspecter de dire, si vous les décrivez, donc vous les valorisez. Et donc, il y a un glissement entre le fait qu'on essaye de comprendre une énigme et de la réduire, avec le fait qu'on la valorise ou qu'on la justifie. Et le glissement entre compréhension et justification est parfois fait par les anthropologues eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, leur texte est d'une telle densité, même parfois de beauté littéraire, qu'on peut croire qu'il le valorise. Et puis inversement, on peut voir exactement l'effet inverse des textes qui sont a priori extrêmement critiques pour un certain nombre de pratiques, alors qu'en fait, ils cherchent simplement à comprendre. Donc on peut suspecter l'anthropologue à la fois d'être pour et contre. Et c'est systématique. Quelle que soit la pratique que l'on va étudier, on risque d'être pris à partie. Et c'est une des positions les plus inconfortables pour l'anthropologue. Dès qu'on travaille sur l'excision, par exemple, d'emblée, on va essayer de nous localiser dans un camp plutôt que dans un autre, plutôt que dans une méthodologie particulière qui essaye de comprendre pourquoi, à un moment donné, l'excision est devenue une question morale.
Donc l'anthropologue doit demander à son lecteur de se mettre dans la même position que lui et de suspendre son jugement, y compris
un moment
sur le système décrit et sur le travail de l'anthropologue aussi. Bon, merci Samuel Lézé pour cet entretien. Merci à François Connac qui a réalisé cette émission. Merci à Jean-Richard Dufour qui était à la technique et à Marie Dalquier. La semaine prochaine, nous parlerons d'une question qui, pour une fois, n'est pas sans lien avec celle que nous venons d'aborder, puisqu'il s'agit de la charia. Que signifie l'application de la charia et comment peut-on la juger ? Avec Baudouin Dupré. Thank you. tout de suite vous retrouver Marie Richeux pour Pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain, donc pour Question d'éthique. D'ici là, très bonne semaine à tous.